tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous. Salam alaikum, shalom, patse, paix, bonheur et prospérité. Dans le monde entier, quels que soient les calendriers adoptés, le mois de janvier est consacré à l'expression des bons vœux. Les formules sont riches et puissantes pour appeler le bonheur, la paix, l'épanouissement sur chacun. Dans un monde déchiré où les enfants d'Abraham ont déjà bien du mal à se rencontrer, ces mots nous invitent à dépasser le simple vœu facile pour entrer dans le réalisme. Comment devenir artisan de paix, de véritable échange, de rencontres et de partage, là où nous sommes avec ceux qui nous entourent.
Et je vous propose de prier avant les lectures bibliques. Le Christ nous accueille et nous dit aussi ce matin, « La paix soit avec vous ». Seigneur, permets-nous d'accueillir tes paroles avec un esprit attentif. Ouvre notre horizon, transforme notre regard, viens nous déranger dans nos habitudes, renouvelle notre capacité à nous laisser étonner. Rends-nous créatifs, prêts à imaginer, à oser entreprendre. Parle-nous, Seigneur, viens visiter nos vies. Amen.
Pendant toute sa vie, l'apôtre Paul a insisté sur la nécessaire solidarité entre les croyants. Dans sa première lettre adressée aux habitants de Corinthe, au chapitre 12, versets 14 à 27, il ose présenter l'Église sous l'image d'un simple corps humain.
Utilisons une comparaison, dit l'apôtre Paul. Le corps forme un tout, et pourtant il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul esprit, pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied pourrait dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille pourrait dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Dieu a composé le corps afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ses parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps.
Thank you.
un rapide cours d'anatomie nous montre combien le corps humain, formé en seulement 9 mois dans le ventre de la mère, est une véritable merveille. C'est malheureusement souvent au cours d'une maladie, avec les défaillances du corps, que nous prenons véritablement conscience de l'ingéniosité de cette machine humaine. Imaginez que les yeux, les oreilles, les mains soient placés à un autre endroit du corps. Reconstituez le puzzle en modifiant la disposition. Vous perdez vite la qualité de la vision en relief, de l'audition stéréo, de l'aisance pour porter et pour manipuler. Le corps nous étonne par sa capacité à se maintenir en activité. Il se régénère automatiquement et permet de vivre jusqu'à 100 ans en régulant un système extraordinaire. Pensez au nettoyage des yeux par clignement automatique, à notre respiration. Au repos, 4 litres d'air et 5 litres de sang traversent les poumons par minute, soit 5760 litres d'air et 7200 litres de sang par jour. Les battements du cœur propulsent 5 litres de sang par minute. Vous croyez passer une journée de repos dans votre fauteuil, alors que pendant ce temps, votre cœur a propulsé plusieurs tonnes de sang. Le corps est le lieu de nombreux records, de l'infiniment petit avec l'ADN rempli d'informations extrêmement précises à l'infiniment grand avec les capillaires. Ce sont certes les plus petits vaisseaux sanguins du corps, mais la longueur totale des vaisseaux mis bout à bout atteint chez un adulte humain moyen plus de 100 000 km. Comparé aux 40 000 km de circonférence de la Terre, vos vaisseaux peuvent en faire plus de 2 fois le tour. Pour vous donner la sensation du goût sucré, salé, amer, acide, pas moins de 9000 papilles gustatives sont à notre service. Que d'énergie, que de complexité. Paul appelle l'Église le corps du Christ. L'Église, du latin ecclesia, ne désigne pas un bâtiment, mais une assemblée d'hommes et de femmes.
Chaque membre de l'Église représente une partie du corps. L'Église universelle se renouvelle, se vivifie, se structure de génération en génération. Elle peut aussi connaître la maladie ou la défaillance. Comme le corps, elle connaît un refroidissement ici, ailleurs la fièvre, ailleurs encore les attaques et la persécution. Des millions de chrétiens différents sont répartis sur la planète avec leurs particularités. L'Église est aussi étonnante et complexe que le corps humain. Mais elle est énergie, énergie de vie. Pour Paul, les chrétiens ne doivent pas s'enfermer dans l'individualisme. Ils manifestent leur ouverture, ils ont besoin les uns des autres, ils participent à la vie de la communauté. Alors comment, moi, je peux renforcer aujourd'hui les liens de solidarité dans ma paroisse? Comment vivre l'unité entre les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques? Ont-ils bien conscience qu'ils ont besoin les uns des autres?
Après avoir dessiné l'image d'un corps, l'apôtre Paul révèle le secret de son organe principal, son cœur. Le cœur donne vie au corps de l'Église, il l'anime, il le dynamise. Paul parle avec tant de force et de passion de ce cœur que ce passage est choisi très souvent en lecture lors des mariages. Voici toujours dans cette première lettre aux Corinthiens, un extrait du chapitre 13.
Chapitre 13, les versets 4 à 13. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beaucé-Perche. Simon Martin est à la technique et nous écoutons Altamira de Marc Knopfler et Evelyne Glennie. C'est en fait la bande originale du film Altamira. Nous venons de vivre la semaine de l'unité des chrétiens. Elle rappelle l'importance du lien fraternel qui doit unir les chrétiens. Et nous savons bien comment cette harmonie reste un défi difficile à relever. L'évangile d'aujourd'hui va nous emmener encore plus loin dans notre réflexion, car Jésus nous pose la question « Et les autres, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient autrement ou autre chose, comment vivre avec eux ? Comment Dieu les voit-il et nous invite-t-il à les regarder ?» Le récit de l'évangile de Luc au chapitre 4 répond à ces questions. Nous y rencontrons Jésus, âgé d'environ 30 ans, qui retourne dans son village d'enfance. Les habitants qui l'ont vu grandir voient plus en lui l'enfant qu'ils ont connu que le Messie annoncé par les prophètes.
Nous lirons maintenant le deuxième texte du jour, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 16 à 30. Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre et le rend au serviteur et s'assoit. Dans la synagogue, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que les livres saints annoncent ? Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, « Pourtant, cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. » Jésus leur dit, « Certainement, vous allez me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous allez me dire, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. » Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. » Puis Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman, le Syrien. Dans la synagogue, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route.
Thank you.
ce qui conduit cette foule à vouloir tuer Jésus. Pourquoi tant de passion et de violence? Le récit commence pourtant bien. Jésus, de retour à sa petite ville d'origine, se voit invité, selon la tradition, à lire la Torah. Bien sûr, l'enfant est devenu homme. Jésus passe par l'expérience de la distanciation. Il ne se définit plus simplement comme le fils de son père, de sa mère, il est lui-même. La mère et les frères de Jésus surgissent plusieurs fois dans les récits des évangiles. Et Jésus, à chaque fois, marque une distance. Qui sont ma mère, mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. On peut s'étonner de l'existence des frères de Jésus mentionnés dans la Bible. Jésus n'était pas fils unique. Des frères de Jésus, nous connaissons plus particulièrement Jacques. Il reconnaîtra en Jésus le Messie annoncé et deviendra le responsable de la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem.
Mais revenons à Nazareth en ce jour de sabbat. Qu'est-ce qui choque la population? Que l'enfant du pays soit de retour et lise d'une voix d'homme? Qu'il se présente comme étant le Messie annoncé par les prophètes en s'appropriant les paroles d'Ésaïe? Cela les laisse certes perplexes et conduit Jésus à prononcer la réplique restée célèbre « Nul n'est prophète en son pays ». Mais ce qui provoque leur colère, c'est que Jésus dénonce leur étroitesse d'esprit. Par deux exemples, il montre que dans l'histoire du salut, Dieu a envoyé les plus célèbres des prophètes d'Israël, Élie et Élisée, sauver et guérir des étrangers, des ennemis d'Israël, la veuve de Sarepta et Naaman. Ces deux personnages ne sont pas n'importe qui et ne viennent pas de n'importe où. La veuve vivait à Sarepta, près de l'actuelle ville de Saïda, qui se trouve aujourd'hui au Liban. Quant à Naaman, il s'agit ni plus ni moins du général en chef de l'armée syrienne. Mettre en valeur le Liban et la Syrie était déjà pour le moins provocateur. Les mentalités ont-elles évolué? Imaginez que Jésus prononce aujourd'hui le même discours dans la même ville d'Israël. Je pense qu'il soulèverait chez beaucoup la même incompréhension.
Le message dérange, il est très clair. Même si Dieu a choisi Israël pour révéler sa première alliance, même si Jésus a vécu à Nazareth, ses habitants n'ont pas à s'enorgueillir ou à se refermer sur leurs privilèges. Dieu aime les hommes, par-delà les frontières religieuses, ethniques, politiques. Ce qu'il attend, c'est que partout dans le monde, chacun puisse se tourner vers lui en toute liberté, quelles que soient ses origines. Mais aussi, que soit manifestée une véritable solidarité humaine, sans discrimination d'aucune sorte. Les communautarismes, les exclusions sectaires ne sont pas pour lui. Dieu dépasse nos a priori. Il aime ceux que nous considérons, nous, comme des étrangers ou même nos ennemis. Il est bon aussi de rappeler que des chrétiens ont souvent voulu offrir un engagement social au service de tous, sans discrimination, et que les nombreuses structures qu'ils ont créées sont devenues des organismes de tous, au service de tous. Prenons l'exemple de la Croix-Rouge, appelée Croissant-Rouge dans les pays musulmans. Au commencement, un chrétien protestant, citoyen suisse, nommé Henri Dunant, se rend au nord de l'Italie, à Solferino. Il veut présenter à l'empereur Napoléon III un plan d'irrigation pour l'Algérie. Choqué par la violence des massacres, révolté par l'abandon total sur le champ de bataille des blessés et des agonisants, il laisse là tous ses documents et entreprend de venir en aide aux blessés. Pour lui, il n'y a pas de guerre juste ou injuste, il ne voit que des victimes qui ont besoin d'aide. Il veut assister sans distinction les soldats des deux camps. Alors, les premiers bénévoles de cette aide aux victimes de la guerre se sont écriés « Tutti fratelli », « Nous sommes tous frères ».
En 1862, de retour à Genève, fortement ébranlé par ce qu'il venait de voir, Henri Dunant publie l'un des premiers reportages de guerre, nommé « Un souvenir de Solferino », dans lequel il dénonce les horreurs des combats. Il décide de créer des sociétés de secours pour apporter de l'aide aux blessés en temps de guerre. Il propose de formuler un principe international, conventionnel et sacré, dans un texte officiel signé par les États. Ce sera la première convention de Genève. Bien plus tard, en 1901, il reçoit le premier prix Nobel de la paix, qui est pour moi aujourd'hui Naaman, le Syrien, qui est pour moi la veuve de Sarepta. Comment vais-je témoigner de ma volonté de construire un monde fondé sur le respect de chacun et sur un esprit de paix? Comment cela peut-il s'exprimer dans mon environnement proche? Voici les questions que me renvoie l'Évangile d'aujourd'hui. Dans les Béatitudes, Jésus déclare que ceux qui sont artisans de paix autour d'eux sont appelés fils de Dieu. C'est dire l'importance de cet appel adressé par le Christ. Est-ce que je veux être artisan de shalom, de salam, de paix?
Je crois que Dieu notre Père est bien tel que Jésus nous l'a fait connaître. Un Père plein de bonté, d'amour et de miséricorde, qui aime les brebis perdues et retrouvées, qui accueille les ouvriers de la 11e heure et qui ouvre les bras sans un reproche à l'enfant prodigue lorsqu'il revient vers lui.
Je crois que Dieu nous a voulu libres et responsables et qu'il n'intervient dans notre existence ni pour nous tenter, ni pour nous mettre à l'épreuve, ni pour nous punir, ni pour nous faire passer avant les autres.
Je crois qu'il nous a confié la mission dans ce monde d'y faire régner la paix et la justice, d'y prendre la défense des faibles et des opprimés, et surtout d'y faire connaître la bonne nouvelle de sa grâce et du salut offert à tous.
Je crois que Jésus est venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité, qu'il nous fait connaître son commandement, un commandement qui résume tous les autres et accomplit la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'il annonce la bonne nouvelle du salut par la seule grâce de Dieu, qu'il établit la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes et femmes de tous les peuples, qu'il est mort crucifié, victime de notre péché, et a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour et a confié aux apôtres la mission de constituer son Église.
Je crois que le Saint-Esprit fait de tous les sarments, dans la diversité des dons et des interprétations, un seul corps qui est l'Église, souffrant de ses divisions et aspirant à l'unité.
Je crois que dans ma vie, ces trois choses sont essentielles, la foi, l'espérance et l'amour, mais que la plus grande des trois est l'amour.
Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres, et je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.